Mes très chers amis, ce 16 septembre, je vais vous présenter deux saints et je vais commencer par sainte Edith de Wilton. Edith, plus connue sous le nom d'Edith de Wilton, naquit en 961. Sa mère, Wulfrid, était la concubine du roi d'Angleterre, Edgar le Pacifique, qui vécut de 943 à 975 et fut le roi des Anglo-Saxons à partir de 959 jusqu'à sa mort. Wulfrid était une dame de très haute noblesse qu'Edgar avait enlevée et déshonorée. Lorsqu'Elfrida, sa seconde femme, mourut, Edgar voulut épouser Wulfrid, la mère d'Edith, mais cette dernière refusa et entra au monastère bénédictin de Wilton, situé non loin de Salisbury. Peu de temps après, Wulfrid était nommé abbesse de ce monastère. Edith n'était alors qu'une enfant. Wulfrid, entrée dans un monastère, voulut cependant se charger elle-même de l'éducation de sa fille. C'est ainsi qu'Edith suivit sa mère au monastère de Wilton et put bénéficier d'une éducation extrêmement soignée pour l'époque. Cela ne l'empêchait pas de recevoir les nombreux cadeaux de son père et de ses demi-frères. Pourtant, elle n'était pas attirée par la vie de la cour d'Angleterre et la toute jeune princesse qui vivait déjà en religieuse dans le monastère géré par sa mère, profitant des exemples et des instructions de sa mère abbesse et des autres moniales, devint religieuse dans le même monastère. Edith, que l'on appellera plus tard Edith de Wilton, se considérait d'abord comme marthe envers toutes les religieuses et les personnes qui passaient au monastère, leur rendant tous les services qui lui étaient demandés. Elle se considérait aussi comme Marie envers notre Seigneur. Et malgré ses liens étroits avec le roi, elle n'hésitait pas à s'impliquer dans les plus humbles travaux du monastère, assistant les malades et servant les étrangers et les pauvres. Elle fonda même pour eux un hôpital près du monastère. Outre les soins qu'elle pouvait donner aux malades dans l'hôpital qu'elle avait fondé, elle secourait par ses aumônes et ses soins tous ceux qui se trouvaient dans l'indigence. Incontestablement, Edith préférait le monde de la charité aux richesses du monde des princes et des seigneurs de la cour royale. Edith était une vraie religieuse bénédictine. Quand elle eut atteint l'âge de 15 ans, le roi, son père, voulut la faire nommer abbesse de 3 monastères. Edith le remercia, mais refusa, ne se jugeant pas digne d'assumer d'aussi grandes responsabilités. Par contre, elle désigna plusieurs religieuses qu'elle estimait bien plus capables qu'elle d'occuper ses places. Nous admirons l'humilité d'Edith de Wilton, mais nous devons ajouter que, quoique très jeune encore, Edith préférait obéir que commander. De plus, elle hésitait à quitter le couvent dans lequel elle avait reçu tant de grâces et qui était toujours dirigé par sa mère. Pourtant, son humilité se manifesta bien davantage lorsqu'elle refusa la couronne d'Angleterre qui lui était proposée. En effet, Édouard, le fils aîné d'Edgar, le père d'Edith, Édouard, honoré plus tard sous le nom d'Édouard le martyr, qui n'avait que 13 ans lorsqu'il succéda à son père, fut, en 978, poignardé par un domestique de la reine, sa belle-mère, qui le haïssait, parce que la reine voulait absolument que son fils, deuxième fils d'Edgar, règne alors qu'il n'avait encore que 7 ans. C'est pourquoi les cardinaux et les seigneurs vinrent trouver Edith pour lui demander de régner et ils utilisèrent toutes les raisons possibles pour qu'elle acceptât. Mais Edith sut leur résister et refusa. Il faut dire que, religieuse bénédictine, elle s'était engagée à être toute sa vie au service de Dieu. Edith poursuivit ses activités et mourut saintement d'une maladie le 16 septembre 984. Elle avait 23 ans. Plusieurs miracles furent constatés sur la tombe d'Edith de Wilton. Je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur saint Cyprien, dont la fête est aussi le 16 septembre ou le 14. Tassius Cyprianus naquit vers l'an 200 à Carthage, aujourd'hui Tunis. Il était le fils d'un riche sénateur païen et reçut une éducation particulièrement soignée. Il devint un orateur particulièrement brillant et enseigna à Tunis la rhétorique et la philosophie. De plus, il était souvent appelé dans les tribunaux pour défendre ses concitoyens. Pourtant, Cyprien n'était pas heureux. Il dépensait largement sa fortune, reçue de ses parents ou de son travail, en fêtes et en banquets somptueux. Mais il avait soif d'une vérité qu'il ne trouvait pas. Un jour, il découvrit les écrits de Tertullien et devint convaincu de la véracité du christianisme. C'est alors qu'il rencontra le prêtre Cecilius, qui l'aida à découvrir la puissance de la grâce de Dieu. Cecilius voulait conduire à la foi chrétienne Cyprien, tout à fait convaincu de la véracité des raisonnements de Cecilius. Pourtant, Cyprien hésitait. Comment pourrait-il vivre selon l'esprit de l'Évangile? Il avait l'habitude de vivre dans les honneurs, d'être un objet d'admiration pour tous ses contemporains, et il pouvait se payer toutes les jouissances et tous les plaisirs qu'il désirait. Comment pourrait-il abandonner tout ce qui était sa vie? Un rude combat se livrait dans son cœur, et une voix intérieure ne cessait de lui dire « Courage, Cyprien, quoi qu'il t'en coûte, va à Dieu !» Enfin, Cyprien se décida et reçut le baptême. Il avait 46 ans. Dès lors, Cyprien devint un tout autre homme. Curieusement, la grâce lui rendait tout facile. C'est alors que Cyprien, enfin baptisé, rédigea le traité à Donatus, dans lequel il écrivit « Quand les eaux de la régénération eurent nettoyé les impuretés de ma vie passée, la lumière jaillit d'en haut dans mon cœur, et l'esprit me transforma en homme nouveau par une seconde naissance. » Alors, d'un coup, d'une manière miraculeuse, la certitude remplaça le doute, les mystères furent révélés, et les ténèbres devinrent lumière. Alors il me fut possible de reconnaître que ce qui était né de la chair et avait vécu dans le péché était terrestre, mais que ce que l'Esprit Saint avait vivifié venait de Dieu. En Dieu et de Dieu vient toute notre force. À travers lui, pendant que nous vivons sur terre, nous voyons l'ébauche de la future béatitude. Cyprien vendit alors toutes ses propriétés et en donna le prix aux pauvres. 2 ans plus tard, en 248, il devint prêtre, puis évêque de Carthage. La population chrétienne de Carthage tressaillit de joie quand elle apprit l'élévation de Cyprien au siège épiscopal de cette ville. En effet, les persécutions commençaient à sévir dangereusement, et bientôt, à la demande de ses fidèles, Cyprien se cacha pour éviter la persécution de Dèce. Cependant, de sa cachette, il employait tout son zèle pour fortifier son troupeau. Quand la persécution de Dèce prit fin, Cyprien glorifia les martyrs. Cependant, tout en étant extérieurement sévère envers les chrétiens qui avaient apostasié pour éviter la mort, il se montrait aussi plein de bonté et de compréhension pour eux, professant que la miséricorde divine était plus grande que le plus grand des péchés. Et il invitait ces pauvres pécheurs à revenir à Jésus-Christ. C'est alors que, rentré à Carthage, il dut régler le problème de la réconciliation des Lapsis, ces chrétiens qui avaient failli durant la persécution. En plein accord avec l'évêque de Rome, le pape Saint Corneille, Cyprien prit à leur égard, au cours des 3 conciles de Carthage, en 251, 255 et 256, des mesures de miséricorde qui provoquèrent un schisme de la part des rigoristes, dont Felicissimus et Novat. Enfin, le calme sembla revenir. Mais bientôt éclata la persécution de l'empereur Valérien. Cyprien, qui était devenu le chef de l'Église d'Afrique, fut envoyé d'abord en exil, seulement en exil, grâce à un proconsul ami. Mais son ami fut bientôt remplacé et Cyprien fut ramené à Carthage où il fut décapité. Ici, nous devons ajouter que notre saint fut toujours préoccupé des intérêts de l'Église et désirait vivement éradiquer les vices dont souffrait le clergé et beaucoup de fidèles. Et la sainteté de sa vie était, pour tous ses fidèles, une invitation constante à imiter sa piété, son humilité et sa sagesse. Pendant ces 2 exils, Cyprien put garder une relation permanente avec les chrétiens de Carthage, grâce à ses épîtres et ses lettres aux prêtres, aux confesseurs et aux martyrs. Il conseillait à tous de ne pas briser l'unité de l'Église, alors menacée, et de rester obéissant à toutes les recommandations et aux justes décisions de leur évêque exilé. Et la majorité des chrétiens carthaginois demeura fidèle à l'Église. plus tard Saint-Cyprien, afin de compléter la série de ses lettres aux évêques d'Afrique, rédigea un livre sur l'unité de l'Église. De nouvelles calamités s'abattirent sur l'Église de Carthage. D'abord une terrible peste, puis une sécheresse qui entraîna une famine, et enfin une horde de barbares numides qui profita de cette catastrophe pour emmener en captivité une population très affaiblie. Entre 253 et 259, pendant la nouvelle persécution contre les chrétiens sous l'empereur Valérien, Cyprien, qui s'obstinait dans son refus de sacrifier aux idoles, fut condamné à la décapitation par l'épée. Entendant la sentence, saint Cyprien s'écria « Grâce soit rendue à Dieu ». Cela se passa en 258 et saint Cyprien avait 58 ans. Saint Cyprien de Carthage, père de l'Église, laissa de nombreuses œuvres, 80 lettres et de nombreux enseignements qui précisent, entre autres, que l'Église est fondée sur le Seigneur Jésus-Christ et qu'elle fut proclamée et bâtie par les apôtres. L'unité interne est exprimée dans une unité de foi et d'amour, et l'unité externe est manifestée par la hiérarchie et les sacrements de l'Église. Dans l'Église du Christ se trouve la plénitude de la vie et du salut. Ceux qui se sont séparés d'eux-mêmes de l'unité de l'Église n'ont pas la vraie vie en eux. L'amour chrétien est montré comme étant le lien qui tient l'Église ensemble. On ne peut nier l'actualité de l'enseignement de Saint-Cyprien.